Alors, moi toujours, je voudrais parler des auto-entrepreneurs et je rejoins un petit peu l'intervention précédente. Mmh. Alors, moi, j'ai fait une formation pour devenir webmaster, sans aide, sans rien. À la sortie de cette formation, je pensais que j'aurais du mal à trouver du travail en tant que salarié. Donc, pour légitimer mon expérience, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise. Donc, j'avais de bons espoirs. Mais souvent, les clients sont trop petits, ils ont des trop petits budgets. En termes de couverture sociale, elle est réduite. L'objectif, c'est aussi de se faire embaucher. Il y a peu de perspectives d'embauche. Moi, je suis dans l'informatique, donc on a beaucoup de responsabilités et de suivi à effectuer. Il y a une concurrence vers le bas, puisque aujourd'hui, on est en concurrence avec l'étranger. Il y a énormément de plateformes avec des gens francophones qui proposent des prestations à des tarifs qui sont très bas. Donc, l'auto-entreprise faisant baisser les charges, les tarifs sont toujours revus à la baisse, descendent. Il y a beaucoup de clients qui abusent un peu de cette précarité professionnelle et financière. On doit investir dans le matériel, dans la formation, on fait des heures à n'en plus finir pour continuer à faire pérenne, enfin pour que le service continue. Donc moi je garde une mauvaise expérience. Pour moi ça s'apparentait un petit peu à de l'ubérisation. Il n'y a pas vraiment de garantie financière. Il y a quand même beaucoup de charges en termes de budget, d'investissement, de formation.
Donc vous avez jeté l'éponge, vous avez jeté l'éponge ou pas?
Oui, finalement, oui, tout simplement. Au bout de 3 ans et demi, j'ai décidé de redevenir salarié et bien sûr mon expérience et mes galères et mes apprentissages m'ont quand même bien servi. Mais pour moi, c'est au détriment des petits prestataires, tout simplement.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Sarah Abdelnour, pas de couverture sociale. Vous pourriez dire la même chose si vous tombiez de vélo, vous par exemple, Jérôme Pimot. Ça aussi, c'est des choses qui reviennent régulièrement auprès des auto-entrepreneurs.
Sur la question de la survie, hein, parce que Vincent, du coup, la question qui s'est posée à lui, c'est la durée dans laquelle il pouvait tenir sous ce régime exercé. Et c'est vrai qu'il n'est pas le seul, puisque après 3 ans d'activité, il y a seulement un tiers des auto-entrepreneurs qui sont encore en activité. Donc c'est vrai que c'est pas un cas isolé hein, d'arrêter après quelques années d'essai, d'expérience plus ou moins heureuse. La question de la couverture sociale est effectivement très présente. Elle se pose pas toujours au début quand les gens s'inscrivent, du coup, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins volontairement.
Mais parce qu'on n'y pense pas.
On n'y pense pas toujours. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par ce régime de l'auto-entrepreneur. Il y a beaucoup de gestion de début et de fin de carrière. Donc il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément encore complètement à l'esprit la protection sociale, qui n'ont pas forcément eu, et tant mieux pour eux, d'accidents du travail, de problèmes de santé, qui pensent pas forcément à leur retraite, qui ne sont pas encore passés par le chômage et pour qui effectivement la couverture sociale n'est pas forcément l'enjeu premier. Et c'est une expérience qu'ils vont souvent faire au fil de leur activité. Première déconvenue, petit problème de santé, une maternité, et puis aussi les questions afférentes, hein, la stabilité, quand il faut payer un loyer,
alors,
trouver un appartement.
On y viendra, j'espère, parce que qu'est-ce que répond un banquier ou même un loueur d'appartement quand vous lui dites, voilà, moi je suis auto-entrepreneur, voilà tous mes employeurs, voilà combien je gagne à chaque fois, ça doit pas être très simple.
Oui, alors il y avait un dessin justement que je trouvais très juste, est paru, alors je n'ai plus le nom du dessinateur, je ne sais pas s'il pourra se prononcer, ou de la dessinatrice, d'un propriétaire slash patron qui militait pour la flexibilisation du droit du travail, et puis des locataires essayaient de le contacter pour louer son appartement, et ils disaient, ah ben non, moi je ne prends que des CDI. Mmh. C'est là qu'on voit quand même un peu l'ambiguïté de cette situation des personnes qui sont plutôt en haut de la hiérarchie sociale, qui veulent à la fois flexibiliser le droit du travail pour ce qui concerne leur propre
sauf qu'il faut du coup flexibiliser jusqu'en bas. On voudrait qu'on prenne Rachel au téléphone qui nous écoute en ce moment. Rachel, vous, on vous a proposé ce statut-là et vous avez dit non.
Tout à fait. J'étais à la recherche d'un emploi et une personne m'a demandé de venir intervenir chez lui dans son entreprise à condition que je me mette en auto-entrepreneur et que je vienne dans ses locaux avec ses horaires de travail, cette situation-là. Et du coup, je me suis dit que ça ne me plaisait pas du tout, que je voulais bien me mettre à mon compte, mais ça serait de chez moi ou d'un espace de coworking. Et c'est le déclic qui m'a poussée à me mettre à mon compte.
Jérôme Pimot, merci beaucoup pour votre témoignage, Rachel. Jérôme Pimot, ce que dit Rachel, qui n'est pas coursier à vélo pour autant, mais c'est à peu près la même chose que vous. En fait, le salariat déguisé, ça veut dire quand on est auto-entrepreneur, qu'on n'a pas le choix de son statut et que l'entreprise ne vous embauchera, ne vous prendra, pardon, que comme ça.
Ben, Rachel est tombée sur un patron qui prenait lui déjà aussi pas mal de risques, parce qu'en effet travailler dans les locaux d'une entreprise c'était déjà risqué pour lui et pour elle évidemment. Je voulais revenir sur ce que disait Sarah tout à l'heure.
Allez-y.
Le fait de... On peut gagner, on pouvait gagner, de moins en moins, mais on pouvait gagner au début de cette ubérisation, notamment chez les livreurs à vélo, aller jusqu'à 2000, 2500 euros, 3000.
Parce que vous n'étiez pas nombreux.
On n'était pas nombreux, il y avait assez de clients, et voilà, le secteur se développait. On était bien payés, justement, pour nous faire venir. Mais aller trouver un appartement, aller trouver un propriétaire, même avec des factures de 3000 euros. Parce que le propriétaire, lui, il sait très bien que ça peut s'arrêter tout de suite, en fait. Ces 3000 euros, on peut les perdre du jour au lendemain. Les plateformes, sur un SMS, c'est terminé. C'est terminé. L'entrepreneuriat à ce niveau-là devrait être quelque chose, comme disait Hicham tout à l'heure, c'est une entreprise, en fait. On monte une entreprise, donc on veut la pérenniser, voire la faire fructifier pour, à terme, si on arrête, au moins avoir un petit capital. Sauf que notre capital, notre carnet client, ou notre licence, ou notre pas de porte, on en n'a pas de ça. Le carnet client, il appartient à la plateforme. Quand on arrête, on perd tout.
François Hurel, vous qui venez d'entrer dans ce studio, je vous souhaite le bonsoir. Vous avez couru, non, je vous
j'ai
en prie.
Couru.
Reprenez votre souffle. Voilà. Vous êtes le fondateur et président de l'Union des auto-entrepreneurs. Vous avez entendu ce que disait Jérôme Pimon à l'instant et peut-être un auditeur dans le taxi en arrivant. Le problème de la protection, le problème de lorsqu'on a un accident, pas seulement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux propriétaires? Comment on peut faire pour que les auto-entrepreneurs ne soient pas dans ces situations-là?
Alors, je vais d'abord, je voudrais m'excuser de mon retard.
Je vous en prie, personne ne l'a vu.
Oui. Non, alors la question est très importante. Elle est d'autant plus importante que ça fait partie, pour moi, selon moi, des principales propositions qu'ils doivent faire évoluer ce régime globalement du travail indépendant. La protection sociale, c'est évident, on ne pourra pas durablement avoir dans ce pays des gens dont on dit qu'ils sont des protégés, certains disent même des surprotégés, et d'autres qui ne le sont pas du tout, ou très mal. Donc évidemment...
Attendez, je vous coupe, il y a la protection sociale, il y a la protection syndicale aussi, enfin, il y a beaucoup de formes de protection
non,
hein, dans
une
entreprise.
Protections. Ouais. Il y a la problématique de la représentativité, tout ça est aujourd'hui posé. Je pense qu'aujourd'hui, ce sujet, il est non seulement important de façon directe pour tous ceux qui méritent d'être protégés et qui doivent l'être. On a fait, nous, dans le cadre de l'UAE, beaucoup de propositions. La première d'entre elles était justement de donner la protection minimale de l'assurance perte subie d'activité, c'est-à-dire en gros effectivement le chômage. La deuxième question est celle de l'accidentologie.
Ça, par exemple,
travail.
Est-ce que vous l'avez? Si Jérôme Pimon perd l'une de ses plateformes, par exemple, est-ce que ça suffit pour toucher le chômage derrière?
Alors, il faudra bien entendu déterminer en fait les conditions, parce que la perte subie d'activité, est-ce qu'elle doit être totale, est-ce qu'elle ne doit pas l'être? Quel est le délai de carence? Quel est le montant du remboursement? Enfin, quel est le montant
de l'indemnisation? Quand on travaille pour quatre plateformes différentes, quatre entreprises différentes, c'est le principe parfois des auto-entrepreneurs.
Oui, mais le principe aussi du chômage, c'est qu'il faut avoir perdu la totalité de ses ressources. Cette question n'a pas été tranchée, elle devra l'être, comme doit l'être effectivement à la fois la prévoyance et l'accident du travail. Bon, mais au-delà de cette question, cela pourrait répondre à une des grandes interrogations qui est liée au travail indépendant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il est en risque de requalification. Et le sujet qui est aujourd'hui, à mon avis, le deuxième sujet le plus important, c'est la détermination de la sécurisation de la relation entre le travailleur indépendant et une entreprise. Et aujourd'hui, on estime...
Ça veut dire qu'il faut qu'elle s'engage, vous dites, il faut qu'elle s'engage
et il ne faut pas qu'il y ait de risque de requalification en emploi salarié. Il ne faut pas qu'un travailleur indépendant puisse, lui de son côté, voir le lien qu'il a avec l'entreprise être requalifié en salarié. Et quant à l'entrepreneur, il prend un risque, si jamais il prend un travailleur indépendant, de voir ça. Et moi, j'ai le sentiment, et nous avons en fait le sentiment, que c'est en faisant converger les protections sociales que finalement on passera le message au juge en disant, bah écoutez, la requalification n'a pas d'intérêt, puisque quoi qu'il arrive, les droits sociaux que vous donnerez sont identiques que vous soyez salarié ou que vous soyez travailleur indépendant. Et si nous parvenons à ça, nous aurons fait 1 million d'auto-entrepreneurs de plus ou de travailleurs indépendants de plus.
D'ailleurs, le chiffre, puisque vous le citez, un peu plus d'un million, on va dire, de travailleurs, d'auto-entrepreneurs aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute Tom au 01 45 24 7000. Bonsoir à vous, Tom.
Bonsoir.
Bonsoir, allez-y.
Voilà, moi en fait, je suis dans un métier manuel et je me posais la question. En fait, il y a quand même, on a vu les problèmes qu'il y avait avec post-bac, tout ça. Et à côté, par exemple, les formations, tout ce qui était CFA, qui manquait un peu de candidats. Et justement, en fait, être entrepreneur, ça permet aussi de pratiquer une activité, manuelle, mm-hmm. de garder une activité manuelle, sans avoir trop de d'administratif à faire. Et voilà, pour il y a aussi des activités
autour de vous, Tom. Il y a des petites moues qui disent que parce que ce que ça veut dire, c'est que administrativement, quand même, il se passe des choses. Vous trouvez que c'est plus facile, vous, au contraire? Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué administrativement dans votre travail, vous, Tom?
Là, moi, je trouve que c'est simple. Actuellement, c'est simple.
Et est-ce que ça le restera? C'est ça le sens de votre question, j'imagine.
Parce que vous êtes un auto-entrepreneur.
C'est le sens de ma question. Parce que si aujourd'hui on veut limiter, je pense, un peu le chômage, c'est aussi travailler sur tout ce qui est métier manuel. Et des gens.
Et donc
qui
il faut pouvoir le faciliter.
Administratif, c'est quand même quelque chose qui est quand même plutôt. Un statut qui est quand même plutôt fait pour nous.
Sauf que vous avez de la paperasserie forcément à faire, puisque vous avez créé votre propre statut d'auto-entrepreneur, Sarah Abdelnour. On dit beaucoup qu'il y a de moins en moins de paperasserie, que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce statut est apprécié. C'est vrai ou pas? Peut-être que ça va changer d'ailleurs avec les changements de...
Voilà, ils ont encore changé effectivement d'interlocuteur. Ils vont changer d'interlocuteur avec la suppression du RSI. Moi, dans les entretiens que j'ai faits, très souvent, il y avait un discours qui changeait beaucoup. C'est-à-dire que souvent une première phrase de dire oui, non mais c'est vrai, c'est simple, c'est sur internet. Mm-hmm. Et puis dès que je posais des questions sur ah d'accord, du coup vous avez choisi quelle option fiscale, ou bon alors ça, bon non, prélèvement libératoire, ou là qu'est-ce que ça veut dire. Et puis bon, quand même, ça leur fait avoir à gérer une entreprise qu'ils étaient quand même pas tous qu'ils n'avaient pas tous prévu de faire, et puis passer du salariat à monter son entreprise, non, ça crée quand même beaucoup de nouveaux interlocuteurs institutionnels. C'est pas forcément une affaire très facile d'ailleurs. Dans les cas où c'est un petit peu du salariat déguisé, c'est souvent l'employeur qui faisait les démarches à la place des travailleurs qui étaient un petit peu perdus dans ce qu'il devait indiquer.
Un mot, Jérôme Pimaud.
Oui, d'ailleurs, tout le travail des plateformes qu'on connaît, notamment Deliveroo, Foodora, tout ça, c'est que c'est elles qui nous font nos factures, en fait. Donc, sous prétexte de facilité, toi, tu fais que du vélo, nous, on s'occupe des factures.
Donc, elles se trompent dans les heures, c'est aussi ce que vous dites en creux?
Ça arrive, mais c'est pas tellement dans les détails. En fin de compte, c'est surtout sur le fond. En fin de compte, c'est elles qui nous font nos factures. Donc les livreurs travaillent un petit peu comme des salariés avec une fiche de paye, pensent-ils, à la fin du mois, sauf que c'est les factures.
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de leur statut, qui nous appellent au 01 45 24 7000. Je voudrais vous faire partager sur franceinter.fr des gens qui sont un peu moins contents. Il faut arrêter de chanter les louanges de tout ce système. Vous croyez que ça fait rêver les gens? Certains cas marginaux peut-être, mais une majorité de personnes ne veut pas de ce statut, et je me demande parfois quel bel avenir je prépare pour mes filles. Est-ce que parfois, auto-entrepreneur, ça veut dire précarité, parce que c'est ça en creux que dit cette dame, François Hurel.
Alors je voudrais revenir
déjà sur... je vois le chiffre, 90% des auto-entrepreneurs gagnent moins que le SMIC. Voilà.
C'est assez... pour être c'est franc, il faudrait rapporter ça autant qu'ils y consacrent. Parce que aussi, 70% des auto-entrepreneurs n'exercent pas à titre complet, n'exercent pas à temps complet. Certains même exercent moins de 10% de leur... En fait,
54% y consacrent l'essentiel de leur temps. Moi, je lis ça sur une statistique de l'INSEE.
Alors, l'essentiel de leur temps, ça ne veut pas dire grand-chose. 54%, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'essentiel du temps. Je voudrais, en fait, revenir sur deux points. D'abord, sur la simplification. Oui, certes, on peut encore améliorer la simplification. Il n'empêche que, regardons d'où nous venons et voyons les pas qui ont été franchis grâce à ce régime. Il y a aujourd'hui, on s'inscrit en quelques clics. La signature électronique a été finalement reconnue grâce à ce système. L'auto-liquidation des charges sociales, qui est quand même un élément crucial des reproches qui ont été faits au RSI, n'existait pas, ce problème n'existait pas lorsqu'on est auto-entrepreneur. Et quand effectivement il y a une option fiscale pour ceux qui ont moins d'un certain plafond de recettes, effectivement il y a peut-être une petite question. Le reste est relativement simple. Alors c'est vrai qu'au fil du temps, on adore en France complexifier les dispositifs. On a imposé l'inscription dans les chambres de commerce, dans les chambres de métier, puis on a inscrit le stage obligatoire, etc. C'est là qui est c'est un vrai sujet. Et il faut que nous poursuivions cet effort de simplification pour permettre que le plus grand nombre puisse accéder encore à ce statut.
Allez-y, pardon, finissez votre phrase.
Pour répondre à la question, c'est pas, je pense qu'il faudrait, il faut regarder. Moi, je sais que 30% des auto-entrepreneurs qui sont en temps exclusif sont à peu près au plafond. À peu près au plafond des deux régimes, ça correspond en gros à un revenu d'un SMIC 1,7.
Vous gagnez un SMIC 1,7, vous, Jérôme Pimaud, lorsque vous étiez livreur ou pas? Est-ce que vous gagniez un SMIC 1,7?
Ça m'est arrivé de gagner plus, ça m'est arrivé de gagner moins.
Le téléphone sonne. Fabienne Synthès sur France Inter.
Et au 01 45 24 7000, c'est Eric qui nous attendait depuis un bout de temps. Bonsoir Eric, on vous écoute.
Bonsoir. Écoutez, moi je voulais vous appeler à propos des répercussions systémiques du statut d'auto-entrepreneur. Voilà, moi je suis consultant et formateur depuis 25 ans. Je suis en profession libérale et j'ai été amené pendant de longues années à répondre à des marchés publics. Mais avec l'arrivée des auto-entrepreneurs, donc c'est sur des prestations intellectuelles, hein, autour de l'enfance, de l'éducation, les prix ont été divisés par deux. Et les collectivités locales, évidemment, choisissent les prestataires en fonction de moyennes. Et très rapidement, évidemment, je me suis retrouvé au-dessus de la moyenne. Si bien qu'aujourd'hui, sur pas mal de projets, les auto-entrepreneurs ont raflé des marchés publics. Alors, c'est pas des marchés publics de très forte taille, mais c'est des marchés publics assez importants. Et le niveau a baissé. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas les moyens ni le temps de se former elles-mêmes, d'être supervisées. Et moi, qui quand même travaille sur des projets de qualité, enfin, je le pense, hein, je ne réponds plus aux marchés publics. Et je constate effectivement autour de moi, dans les collectivités locales, une baisse quand même du niveau de la formation continue en France. Et je crois vraiment que le statut d'auto-entrepreneur y a contribué. Et je me demande pourquoi effectivement dans les mesures annoncées par le gouvernement, finalement, on zoome sur le statut d'auto-entrepreneur, mais on ne voit pas les répercussions que ça peut avoir sur d'autres métiers. Et pourquoi on ne pose jamais la question de la qualité? Comment ça se fait que moi je suis soumis à des réglementations sur la qualité et que les auto-entrepreneurs pas du tout? Voilà, je me questionne.
Eh bien, votre question a été entendue, Eric. Merci beaucoup. Sarah Abdelnour, ce qu'il nous explique, Eric, c'est qu'on nivelle par le bas. En gros, c'est un peu ce qu'il dit. Vous pensez que ça peut être l'un des effets pervers?
C'est vrai qu'un des effets que ça a eu, notamment on en a entendu parler avec les plateformes, hein, les conflits entre les taxis et Uber, c'est cette crainte de la concurrence qui est certainement liée à un déficit un peu de régulation politique. C'est-à-dire on a ouvert le secteur des taxis avec des licences qui coûtaient jusqu'à 250 000 euros, et puis on fait entrer sur le marché des personnes qui n'ont pas eu cet engagement financier, donc ça tire le prix des licences vers le bas, et on se retrouve avec une génération de taxis qui a été un peu sacrifiée. Donc ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire en termes de régulation politique, et que là on a un petit peu monté des travailleurs les uns contre les autres. Du côté des plateformes Uber, ils ont plutôt finalement une partie des taxis et des chauffeurs VTC en colère ont fini plutôt par s'allier et à surmonter un peu cette guerre qui a été un petit peu, je ne dis pas qu'elle a été organisée, mais en tout cas on l'a laissé un petit peu se passer. Et c'est vrai qu'il y avait cette peur de la concurrence.
On attend pour voir et puis on essaie de réguler après au lieu de le faire dans l'autre sens en fait.
Là oui, on a plutôt déroulé le tapis rouge aux nouvelles plateformes sans doute parce qu'on estimait que ça allait faire un choc de croissance ou je ne sais quel espoir un peu d'économistes. Et c'est vrai que ça a créé quand même de la tension sociale et à juste titre, hein, il y a un reportage d'Arte assez intéressant récemment sur les conflits en Espagne entre Uber et taxi, ça vaut le coup d'être regardé, c'est intéressant.
Cette question de Philippe sur franceinter.fr, je connais l'exemple d'un établissement public de recherche qui recrutait des CDD par le passé, maintenant il recrute des auto-entrepreneurs pour les mêmes missions, salaire reçu pas plus élevé mais pas de couverture sociale, durée des missions non définie, payée au résultat, un scandale pour le public, dit-il. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça, François Hurel, d'endroits où on se dit, ah bah tiens, l'auto-entrepreneur, ça va être plus pratique pour moi, tellement plus pratique parce que je paierai moins cher et que ce sera tellement plus simple également pour se séparer des gens qui travaillent pour moi.
Alors, il y a une question claire. Si jamais il y a abus parce qu'il y a effectivement dissimulation du lien de subordination et donc contrat de travail déguisé, il faut sanctionner. Ça me paraît évident.
Mais ce sont des cas qui existent.
Oui, ce sont des cas qui existent. Maintenant, est-ce que ça représente le 1 200 000 auto-entrepreneurs aujourd'hui effectivement inscrits? Je ne crois pas. Il y a aussi beaucoup de cas où le régime fonctionne plutôt bien et des travailleurs indépendants se créent avec un régime plutôt simple. Là où on a eu un sujet, parce que j'ai suivi un peu le développement de ce régime que j'ai largement contribué à créer en 2009, c'est qu'on était sur une démarche qui était en 2009 de B2B. Là où nous nous retrouvons maintenant, c'est qu'une partie de l'activité est en B2B2C, c'est-à-dire qu'elle est intermédiée par des plateformes.
En français, ça veut dire
qu'elle est intermédiée
B2B,
par des plateformes.
B2B, c'est business
le client.
Business to business, donc un homme face à une entreprise.
Le client final est en relation avec un intermédiaire.
On a créé des intermédiaires.
Plateforme, et la plateforme est en relation avec un fournisseur dont elle devient un donneur d'ordre avec partiellement, je le crois, en tout cas pour Uber ou pour d'autres, un lien de subordination affiché. Donc c'est ce problème-là qu'il faut aussi que
et
nous traitions.
C'est ce que disait
et cette relation commerciale, cette relation qui doit être commerciale, a été totalement dévoyée. Et donc je pense qu'il faut reprendre le sujet et essayer de voir comment est-ce qu'on peut naturellement faire construire un dispositif juridiquement correct.
Une question très précise, c'est la vôtre, Loïc, et on vous écoute.
Oui, alors moi je voulais témoigner sur deux choses en fait. Donc moi je suis auto-entrepreneur en complément d'activité salariée. La première chose, c'est donc j'ai été salarié d'une entreprise pendant un an. À la fin de ces un an, l'employeur a dit à tous les salariés, si vous voulez rester travailler avec moi, vous vous mettez en statut d'auto-entrepreneur pour mon entreprise. Première chose, et la deuxième chose qui est assez hallucinante, c'est que j'ai trouvé un autre contrat après. Pôle emploi m'a dit, si vous voulez, vous avez le droit à l'aide ACRE, je crois, ou ARS, je ne sais plus très bien, pour créer votre entreprise. Voilà, donc je dis, ok, puisque de toute façon j'ai un contrat, donc je m'en fiche, quoi. Et un an plus tard, je me suis retrouvé au chômage, et là, Pôle emploi m'a dit, oui, mais non, maintenant vous n'avez plus le droit au chômage, puisque vous avez bénéficié de l'ACRE, à savoir 1000 euros à l'époque. Et du coup, Pôle emploi m'a dit, écoutez, si vous voulez toucher le chômage, la seule solution que vous avez, c'est de détruire votre activité, quoi. Voilà un peu un petit témoignage pour peut-être faire attention à des gens si on leur propose ce genre de dispositif.
Et ça prouve, merci beaucoup Loïc, parce que ça prouve non seulement parfois la complexité, puis ça prouve que parfois on ne sait pas exactement vers quoi on s'engage, parce que ça peut être compliqué. Sarah Abdelnour, emblématique l'exemple de Loïc selon vous ou pas?
J'en ai rencontré effectivement un certain nombre de travailleurs incités à soit embauchés en tant qu'auto-entrepreneurs, soit on les a effectivement fait passer progressivement de CDD vers de l'auto-entrepreneuriat. Et par rapport au un autre témoignage aussi, c'est vrai que ça arrive aussi dans le public. Alors pour des questions de coûts et puis pour une question de contournement des règles de limitation des embauches dans le secteur public.
Et d'ailleurs, je vais vous poser la question cash, est-ce que c'est autorisé dans le public, dans n'importe quelle entreprise publique, d'utiliser des auto-entrepreneurs? Et est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à prendre un statut d'auto-entrepreneur?
Non, alors là, c'est le droit qui s'applique. C'est-à-dire que par rapport aussi à la remarque tout à l'heure de François Hurel, effectivement, il y a un dispositif juridique qui détermine ce qu'est la subordination et on peut requalifier un contrat. Moi, il me semble que beaucoup des situations que j'ai observées, je suis pas juriste, mais beaucoup des situations que j'ai observées, les travailleurs travaillaient dans les locaux avec un seul client qui avait, vraiment dans les faits, le rôle d'employeur, qui contrôlait les horaires, les missions. C'est vrai qu'en termes juridiques, ce serait requalifié, sauf que ces travailleurs sont en train de s'engager sur le marché du travail et ne vont certainement pas prendre le risque d'un conflit avec quelqu'un dont ils espèrent un jour qu'il deviendra leur employeur.
Est-ce qu'il y a un CDI à la clé des auto-entrepreneurs ou pas, le plus souvent, Jérôme Pimaud, à votre avis?
Non, pour ce qui concerne les plateformes, surtout
alors
pas.
Les plateformes, c'est encore un cas particulier, mais effectivement, il y a peu de chances de se retrouver en CDI.
Non, bien sûr que non. Mais tout à l'heure, j'entends souvent parler du SMIC, en fait, dans les discussions par rapport au SMIC, alors qu'on est auto-entrepreneur, on ne parle pas de SMIC, on ne parle pas de salaire, on parle de chiffre d'affaires. Donc quand j'entends des plateformes comme Deliveroo, pour ne pas la citer, celle qui est sur l'actualité, qui nous dit qu'on peut gagner une certaine marge du SMIC, nous on parle de chiffre d'affaires. Il faut toujours mettre l'accent là-dessus, parce que tout un tas d'auto-entrepreneurs se basent aussi des fois sur le SMIC. C'est la première erreur à ne pas faire. On parlait tout à l'heure aussi des protections qui sont en train de se mettre en place. On parlait d'anticipation. Nous, sur notre vélo, on sait ce que c'est que l'anticipation, parce que de l'anticipation dépend notre vie. Là, on a laissé faire des plateformes qui prônent l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est ça le vrai sujet. Qui, elles, n'ont pas anticipé. Elles ont fait n'importe quoi. Et maintenant, on voit qu'elles sont en train d'essayer de faire machine arrière tout doucement pour mettre en place des protections, pour travailler sur ceci, pour travailler sur cela. On se retrouve dans les contrats, par exemple, Deliveroo encore, elle.
Ceci dit, vous n'avez rien obtenu de Deliveroo récemment, puisque ça
encore,
a échoué.
Pas encore, peut-être. Mais on a des choses dans les contrats qui disent, le nouveau contrat Deliveroo dit, maintenant, la tenue ne sera plus obligatoire. le port de la tenue ne sera plus obligatoire, ce qui veut dire qu'avant il l'était. C'est-à-dire que pendant 2 ans, des milliers de jeunes ont travaillé avec cette obligation, qu'elle n'y est en plus, mais qui est de facto, parce qu'elles disent que maintenant, elle ne sera plus obligatoire. La subordination, elle est présente à tous les niveaux.
J'ai quelques questions très précises, et notamment celle-ci. Peut-on être auto-entrepreneur lorsqu'on est fonctionnaire en deuxième métier sans prévenir son employeur principal ? François Hurel, vous avez la réponse ou pas ?
Alors, la réponse est a priori oui, sauf pour une certaine catégorie de fonctionnaires qui ne peuvent pas le faire.
Comme quoi ?
Certains territoriaux ne peuvent pas le faire, pour des raisons que je ne connais pas. Mais en tout cas, au moment du vote de la loi et dans les lois ultérieures, ça n'a pas été prévu. Je voudrais juste revenir sur un point.
Rapidement, parce qu'il y a d'autres questions très précises.
Rapidement. Je pense que la question du travail, en fait, indépendant en France est une question qui dépasse largement le problème posé par 2 ou 3 plateformes. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes, il y en a à peu près 1500 aujourd'hui. On ne parle que de 3. Alors effectivement, ces 3-là, elles sont très emblématiques, elles ont des conflits avec leurs collaborateurs ou mais la réalité, c'est qu'il y en a 1500 autres qui font bien leur boulot, et finalement, je pense qu'il ne faudrait pas.
En creux, ça veut dire que c'est les plus grosses qui posent problème?
Non, c'est pas forcément les plus grosses. C'est pas forcément les plus grosses. Moi, j'en connais quelques-unes qui sont extrêmement importantes et qui rapprochent des demandeurs de travail indépendant ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants qui rendent des services. Les choses se passent excessivement bien. Il n'y a pas de problème. Donc, ne limitons pas ce débat. On ferait une grave erreur. Et justement, je pense qu'il faut réglementer cette problématique des plateformes avant de débattre du sujet du travail indépendant et jeter le bébé en fait
avec l'eau du bain. Une question très précise à nouveau qui nous vient d'Alain sur franceinter.fr. Je voudrais savoir s'il est possible d'être micro-entrepreneur et retraité et sous quelles conditions ?
Est-ce qu'il y a des conditions ? Sans conditions.
Il n'y a pas de conditions.
La réponse est oui et sans condition. Le régime du travail indépendant est un régime qui est universel. Il peut être exercé quel que soit son revenu, sa situation, son statut. On peut être tout et être auto-entrepreneur.
Allez, au 01 45 24 7000, nous attend Céline. Bonsoir Céline, et on vous écoute.
Bonsoir. Pour témoigner, voilà, moi je suis naturaliste en Bretagne et j'ai un statut d'entrepreneur salarié. Et je fais partie d'une SCOP, donc une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Oxalis, qui est au niveau national. Et donc voilà, j'ai vraiment monté mon activité de naturaliste, donc en tant qu'entrepreneur, mais j'ai une couverture salariale, je fais partie de cette SCOP, voilà, en tant que salarié. Donc c'est un compromis qui existe actuellement et qui est somme toute intéressant.
Et ça veut dire, Céline, que vous aviez le choix et vous vous êtes dit non, auto-entrepreneur c'est pas pour moi. Est-ce qu'on vous a orienté dans cette situation-là? Ça s'est passé comment pour vous?
Moi, ce qui m'a plu dans ce système-là, c'est que je ne me retrouve pas complètement isolée à monter mon activité. Il y a des gens dans la coopérative qui sont là pour vous aider à monter votre activité, comment ne serait-ce que savoir faire ses comptes, faire la trésorerie au départ, le secrétariat. Et puis après, on se retrouve aussi, à Oxalis, on fait dans le Grand Ouest, on a une antenne sur Rennes, et on fait des réunions régulièrement avec d'autres coopérateurs pour s'entraider. Bah, t'en es où, toi, ton activité? Ah tiens, est-ce que t'as pensé aller voir cette personne-là? Ah non, tu vois, puis ça fait évoluer, ça c'est dynamique, ça m'a beaucoup plu.
Merci beaucoup de votre témoignage, Céline, qui intéresse beaucoup Jérôme Pimaud, que je voyais réagir. Elle a prononcé le mot qui tue, le mot qui fâche peut-être pour vous, elle a prononcé le mot coopérative.
C'est le mot qui tue, l'ubérisation en fait. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que souvent les auto-entrepreneurs ont des problématiques de locales et la coopérative est là pour régler tout un tas de niveaux. On resocialise l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est plus indépendante, elle est autonome. Il est là le truc en fait. L'indépendance, c'est un abus de langage qui nous a été vendu, trop bien vendu, mais c'est l'autonomie sur laquelle reposent les coopératives.
Mais vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il en a été question, il en est question depuis un bout de temps d'une coopérative entre les livreurs et notamment la ville de Paris, mais pour l'instant, elle n'existe pas cette coopérative.
Alors, on y travaille, ça s'appelle CoopCycle, et c'est une application qui fonctionnera informatiquement comme des livreaux en fait, c'est-à-dire qu'il y aura des clients qui rentreront en contact avec une coopérative qui mettra ensuite au point une méthodologie avec des livreurs.
Mais François Hurel qui est content, il dit que c'est une bonne idée. Je vois qu'il est du chef
parce qu'on est en train d'inventer ce que les anglo-saxons ont fait, qui s'appelle un partnership et qui permet à des indépendants de s'associer entre eux dans un système extraordinairement souple et de répondre à des demandes. Et c'est exactement le partnership qu'il faut que nous sachions inventer en France.
Mais Sarah Benlour, ce qu'on est aussi en train d'inventer, c'est une manière de mieux gérer son propre statut d'auto-entrepreneur finalement. On est en train d'inventer des systèmes qui permettent permettront de mieux le vivre, parce que tout seul, il ne suffit pas. C'est aussi ça qu'on entend dans les témoignages, y compris celui de Céline à l'instant.
Alors effectivement, déjà, il y a une grande partie des auto-entrepreneurs qui continuent à tenir parce qu'ils continuent à reposer ou à s'inscrire dans ce que le système salarial offre. Ils bénéficient d'un ancien logement patronal, ils continuent à avoir une sécurité sociale de leur ancien emploi ou de leur sécurité sociale étudiante. Après, effectivement, ils s'organisent aussi, ceux qui sont quasiment ou exclusivement indépendants, ils peuvent s'organiser. Effectivement, il y a ces coopératives, il y a d'autres espaces qui peuvent être des espaces où il se passe des choses intéressantes, où on discute de ce que c'est que le travail, de comment on se répartit le profit. Par contre, le versant qui me semble peut-être moins satisfaisant, c'est cette impression aussi que c'est aux travailleurs de gérer eux-mêmes leur protection sociale, de chercher leur mutuelle,
de chercher comment ça se passe.
Effectivement, et que les cotisations sociales dans cette affaire ne soient pas véritablement payées, notamment quand ils sont dans ces situations proches du salariat, que c'est quand même eux qui s'assurent de manière individuelle et que les cotisations patronales ne soient plus payées, parce que c'est quand même un peu le défi qui se pose dans le discours d'Edouard Philippe ce matin, beaucoup de valorisation de la liberté, puis à la fin de dire non mais on va aussi renforcer la protection sociale. Le problème c'est que les caisses sociales sont quand même pour le moment plutôt asséchées par le système, et notamment quand il exonère toute une première année de cotisation ou quand effectivement le dispositif d'aide aux chômeurs offre de la protection sociale sans remplir les caisses, on peut s'interroger sur la survie du système de protection sociale dans ce cadre-là.
François, vous êtes le dernier, si vous me promettez d'aller très vite, on vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien écoutez, moi c'est simple, je suis un auto-entrepreneur heureux.
Ah bon, on va vous mettre sous verre, François, ne bougez pas.
Non, mais j'ai l'impression que j'ai bien écouté votre émission. Je suis complètement déconnecté. Je comprends pas. Moi, j'y trouve simplicité.
Il fait quoi ?
J'y trouve l'idée d'entreprendre à mon rythme, comme je veux. Alors, je ne suis
qu'est-ce
pas
que vous faites, François ? Vous êtes
alors, oui, pas du vélo. Faut préciser, moi, j'ai des chambres d'hôtes.
Et voilà, il y a François Pinot, Jérôme Pinot, pardon, à côté, qui dit, il fait pas du vélo, François. C'est
non,
sûr.
Non, je fais des chambres d'hôtes. Ah. Donc voilà. Donc je ne suis pas ubérisé, c'est-à-dire que la grosse société qui dit voilà, j'en veux pas parce que sa politique ne correspond
François.
Pas à ce que je veux faire. Je suis auto-entrepreneur parce que je veux décider de mon travail.
On a compris, donc, François, voilà. Et je suis désolé de vous couper, mais vraiment il va falloir qu'on se quitte. Le mot de la fin, ce sera pour vous, Sarah Abdelnour, parce que vous réagissiez en même temps qu'on écoutait François. Évidemment, c'est plus facile.
Il y a des auto-entrepreneurs heureux. La question est pas là. Il faut des. C'est ce qui est intéressant à saisir, c'est les ressources qui permettent de vivre ça bien, les ressources qui sont pas si souvent présentes dans les situations des gens qu'on incite à se mettre à leur compte. C'est de voir sans doute qu'il doit être propriétaire, avoir une situation stable par ailleurs qui permet de vivre ça de manière heureuse, et c'est pas souvent le cas.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous.